Radio. La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Alors, on a avec nous Olivier Bourque, journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Olivier.
Allô Yasmine, ça fait plaisir d'être avec toi tout l'été.
Pareillement, pareillement, on va s'amuser puis on espère que les nouvelles économiques vont être bonnes cet été. Mais on va commencer par les mauvaises.
Alors, voilà.
Parlons de la crise de logement, le 1er juillet arrive à grands pas. Qu'est-ce qui se passe, Olivier?
Ben actuellement, tu sais qu'on parle beaucoup de pénurie de personnel, mais il y a aussi une énorme pénurie de logements. Ben, on en parle de plus en plus. Tout ça a été exacerbé, tu le sais, pendant la pandémie. Manque de logements. Quand même, c'est un problème qui a été identifié il y a plusieurs années, mais vraiment, pendant la pandémie, on a vu que c'est un problème qui est encore plus important. Et on parle pas juste de manque de propriétés, notamment donc des condos, des unifamiliales, mais il manque aussi de logements qui sont locatifs, de places, par exemple, dans les HLM, donc les habitations à coût modique. Et là, tu l'as évoqué, Yasmine, on approche du 1er juillet. Tu sais qu'à chaque année, on a un nombre de personnes hein, qui veulent donc se trouver un logement et qui ont de la difficulté. Donc, on aura l'ampleur de la crise du logement lors des prochaines journées. Mais actuellement, donc, on a des chiffres qui montrent que c'est un sacré problème. Surtout à Montréal, soit dit en passant. Ça touche toutes les régions du Québec, mais c'est surtout donc la grande région de Montréal où on observe ce problème-là. Pourquoi? Ben parce que tu sais que c'est là que la population augmente le plus,
ben oui.
Davantage d'immigration, ben oui. Puis même, je sais pas si tu avais vu cette statistique lors des dernières semaines, tu sais que des déplacements inter-provinces, on accueille maintenant plus d'Ontariens
ben oui.
que de Québécois qui vont de l'autre côté.
Oui, le flux migratoire, il est positif.
C'est ça, exactement. Donc, puis généralement, donc nos voisins, nos gentils voisins, mais ils viennent surtout dans la grande région de Montréal. Alors, ce sont tous des gens qui se cherchent des logements. Alors, on a un très bon texte dans le journal ce matin, de la plume de mon collègue Francis Alain. Le chiffre qu'il faut retenir, alors ça prendrait d'urgence là 110 000 habitations.
Ben, c'est énorme.
C'est énorme, t'as raison, et c'est vraiment donc aux quatre coins du Québec. Alors ça, c'est une nouvelle compilation qui a été faite de l'Association des professionnels de la construction d'habitations du Québec, ce qu'on appelle la PCHQ. Et là, je vais détailler, Yasmine, regardez bien, le 110 000, alors quel genre de logement que ça prendrait? 15 000, donc ce sont des logements qui sont locatifs privés, notamment donc des duplex. 58 000 des propriétés qui sont manquantes à vendre, notamment donc des unifamiliales. Et on parlait des HLM tout à l'heure. 37 000 ménages sont en attente.
C'est énorme. D'habitation.
C'est énorme. Et ça risque de devenir, ce ne sera pas évidemment donc la question de l'urne, mais ça sera sûrement un des enjeux électoraux. On va en parler beaucoup, assurément, donc à l'automne. Et 52% des propriétés à vendre manquantes, ben c'est dans la région de Montréal, environ 30 000 que l'évaluation. Et il en manquerait environ 5 000 donc dans la région de Québec, 3 800 à Gatineau. Et là, imagine-toi, Yasmine, si on voulait se mettre en mode rattrapage, ben évidemment, il faudra en construire beaucoup plus. 10 000 logements qu'il faudrait construire à chaque année.
Pour rattraper.
Oui, seulement pour attraper, puis même à la rigueur, je te dirais, là, parce que le problème, évidemment, va continuer, va s'aggraver. Alors, à 10 000 sur 10 ans, mais c'est 100 000. On n'arrive même pas aux 110 000, évidemment. Donc, ça, on améliorerait la situation, là, mais on sera encore en déficit. Puis là, tu comprends bien qu'il y a trois obstacles actuellement.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui empêche de développer les logements?
Il y a trois obstacles. On parlait tout à l'heure du manque de main-d'œuvre, évidemment. Parce que, tu sais, on se promène les rues de Montréal. Il y a de la construction partout.
Et là, oui.
Mais ça en prendra encore davantage. Alors, davantage de travailleurs. Parce que moi, sincèrement, c'est pas même des rues. Il y a tellement de gens qui travaillent à la construction. Mais il en manque encore. Les problèmes d'approvisionnement, puis aussi la question des taux d'intérêt, je vais t'en parler dans quelques instants. En attendant, évidemment, le problème, c'est qu'il y a des gens qui attendent leur appartement. Il y en a d'autres qui voudraient devenir propriétaires. Alors, surtout des premiers acheteurs, mais qui peuvent pas. Et
oui, parce que ça libérait des espaces locatifs, des appartements, des finalement des résidences locatives qui pourraient oui. être qui pourrait contribuer à absorber ce besoin-là. Mais le problème, c'est que c'est plus achetable. Il n'y a pas de maison sur le marché. Puis avec la hausse des taux d'intérêt, le monde se dit peut-être pas cette année.
C'est très bien résumé. Tu as peut-être en terminant, regardez, entre 2019 et 2021, c'est une hausse de 47% des prix des maisons unifamiliales à Montréal. Imagine-toi, là, le couple, mettons un couple de 30 ans, là, se sont mis une petite pécule de côté là, lors des dernières années. On dit, ah, nous autres, on va l'acheter. Nous, c'est notre rêve là, d'aller acheter, au départ, évidemment, seulement un condo. C'est déjà très bien d'avoir un condo. Mais là, c'est plus une petite pécule. Ça prend un gros pécule. Là, heureusement, Yasmine, le marché se calme un peu selon les dernières évaluations, notamment de Desjardins. En ce moment, il y avait une correction du marché immobilier, donc un recul d'environ 10%. Et là, tu l'as dit, la hausse des taux d'intérêt, ça devrait calmer le jeu. Mais en même temps, ça va faire en sorte que les gens vont payer plus. Alors, il y a un équilibre à trouver actuellement. Donc, tout l'article est vraiment bien détaillé. Là, on peut lire ça ce matin dans le journal.
Oui, et Olivier, les dernières semaines, on nous disait que si on voulait préserver notre santé mentale, c'était pas le moment de regarder nos placements en bourse. Alors, ce que tu nous veux nous apprendre aujourd'hui, c'est que cette semaine également, on devrait préserver notre santé mentale et laisser notre portefeuille boursier de côté.
Oui, et j'ai une question pour toi, Yasmine. Est-ce que tu regardes parfois tes placements?
Je les ai pas regardés dans les dernières semaines exactement pour préserver ma santé mentale.
C'est bien. En plus, tu commences une émission, hein, ça prend toute notre tête. Mais c'est le meilleur conseil parce qu'il y a des gens vraiment, c'est facile. Tu sais, avec les applications qu'on a sur le téléphone,
ben
on a
oui.
toujours envie d'y aller. Mon Dieu. Puis c'est quasiment du masochisme, hein, parce que de regarder ça descendre à chaque jour, on peut y aller une fois par mois, sincèrement. Alors, on peut pas y aller une fois par jour. J'ai fait quelques calculs. Depuis le début de l'année, gâte-toi, le TSX, on est en correction. Donc, c'est un recul de 11%. TSX, c'est à Toronto. C'est moins pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont des titres pétroliers.
Oui.
Et on sait que le pétrole a beaucoup augmenté. Le Dow Jones, tu vois, aux États-Unis, ça, c'est évidemment donc New York, Wall Street, sont à moins 18. Alors, lui, il approche ce qu'on appelle un bear market. Puis, on a tout ça dans nos portefeuilles, hein, des grosses entreprises américaines. Là, tout le monde
Absolument.
A ça.
Absolument.
Alors, on est proche d'un bear market, donc d'un marché qui est baissier. Évidemment, il y a un contexte d'inflation. Et là, les banques centrales, on l'a dit, donc relèvent les taux directeurs. Donc, ça effraie certains investisseurs et on parle de plus en plus aussi donc de la récession. Alors la semaine elle risque d'être assez difficile en bourse. Je regardais ce matin, je l'ai dit, on va commencer dans le vert. Alors ça, souvent, tu vas voir, je vais faire ça le matin, je vais aller voir quelle sera la tendance pour la journée. Il faudra voir si ça va tenir, mais évidemment, avec des craintes de récession, ça fait fuir les investisseurs et ça amène aussi donc beaucoup de craintes là, sur les marchés boursiers.
Bien, on a vu la semaine dernière, puis corrige-moi si je me trompe, Olivier, c'est quand la réserve fédérale aux États-Unis qui a annoncé d'augmenter de 0.75 point son taux directeur, on a vu les bourses dire... OK, ben on a l'impression qu'on s'en va vers une récession, donc la prudence est de mise et ça a beaucoup contribué à ce manque de confiance dans les titres boursiers.
Oui, absolument. C'est sûr et certain que lorsqu'on va vers une récession, ben, les investisseurs sont plus prudents, certains enlèvent leurs billes, disent on va mettre nos billes ailleurs. C'est pour ça qu'on voit vraiment des reculs sur les marchés boursiers. Puis même, je te parlais tout à l'heure du Dow Jones, mais le S&P 500, qui est l'indice là, qui regroupe toutes les grandes entreprises américaines, c'est probablement l'indice qui nous donne le plus la température de l'économie américaine. Puis eux sont à moins 23% depuis le début de l'année. Alors, c'est sûr et certain que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on disait faut préserver notre équilibre mental puis arrêter d'aller voir. Puis même au Québec... Tu as vu ça, l'espèce de petit débat entre M. Girard, donc le ministre des Finances, et puis le premier ministre, M.
Ah
Legault.
Oui, ben 35-50, on le sait plus. C'est quelque part entre les deux.
C'est sûr, parce que, ouais, donc 35% de chance pour M. Girard d'aller vers une récession au Québec, 50% de chance pour M. Legault. Cela dit, si les Américains, parce qu'aux États-Unis, on en parle de plus en plus aussi des craintes de récession, si les Américains vont en récession, le Québec puis le Canada va y aller aussi. Hein. Tu connais l'adage, quand les Américains toussent, le Canada a la grippe.
Exactement.
Alors, on est dans ce contexte-là, ça risque d'être difficile.
Et aujourd'hui, Olivier, en terminant, on aura des nouvelles du fameux panier bleu, on s'en rappelle, qui a vu le jour pendant la pandémie pour nous mobiliser tous à acheter local, à acheter québécois. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais il devenait transactionnel et aujourd'hui, on aurait une mise à jour.
Oui, exactement, exactement. Puis je crois que c'est la semaine passée, c'est le premier ministre, encore M. Legault, qui affirmait qu'il souhaite, lui, que le panier bleu soit vraiment un site transactionnel. C'est un site comme Amazon, là. Alors, tu vas dessus, puis carrément, tu peux faire des transactions. Parce qu'actuellement, ce que c'est un peu une, on pourrait dire, une liste d'entreprises.
C'est des pages jaunes, là, tu sais, c'est comme des pages jaunes.
C'est ça, exactement. Puis après ça, moi, je l'avais déjà, cela dit, c'est fort agréable, là. Tout est regroupé, puis après ça, tu cliques sur l'entreprise, et après ça, tu vas sur le site en question. Là, ce serait vraiment donc un site transactionnel. Est-ce que c'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui? Peut-être. Je sais que M. Fitzgibbon, il sera aujourd'hui, donc c'est une annonce à 8h45, donc dans environ une heure. On parle des activités, des nouvelles fonctionnalités pour le panier bleu, donc ça va se passer à Anjou, au siège social de Mondou, donc dans l'est de Montréal. Et il y aura aussi donc une personne de Lightspeed, alors c'est l'entreprise québécoise qui a mis en place aussi donc toutes sortes de fonctionnalités pour faire en sorte de payer directement.
Oui, des solutions de paiement là qui
voilà.
Une entreprise montréalaise qui est très importante.
Je ne sais pas exactement ce sera quoi, mais probablement. Et aussi, je tiens à souligner ce matin un très bon article dans le journal là, sur La Fleur, les restaurants La Fleur, tu sais. Toujours un plaisir coupable d'aller là-bas. Alors, eux veulent doubler la taille de la chaîne. Alors, ils ont des grosses ambitions. Donc, on a beaucoup de contenu là, à lire ce matin.
Olivier, est-ce que tu y crois au panier bleu? Penses-tu qu'on est vraiment capable, avec notre panier bleu, de faire concurrence aux Amazon de ce monde qui ont développé ça sur plusieurs années? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Moi, je pourrais être bien honnête, je suis pas convaincue.
Ben, c'est sûr que depuis le début, on n'est pas très convaincu. Je pense, Yasmine, qu'au départ, l'effort est louable. Hein, on s'entend?
Oui.
On était en pleine pandémie. On se faisait dire à tous les jours que nos entreprises, les entreprises québécoises, puis nos petits commerces, nos commerces de proximité avaient de la difficulté parce qu'évidemment, tout le monde était à la maison. Donc, on voulait les encourager, les stimuler. Je pense que l'effort est louable. Là, ça fait quand même à peu près quoi, 2 ans que ça a été annoncé, le panier bleu. Je crois qu'on doit maintenant aller dans la vitesse supérieure et faire en sorte qu'on soit capable de faire des transactions directement sur le site. Est-ce qu'on sera capable de concurrencer les Amazon de ce monde puis les très, très gros sites? L'idée, moi, je ne crois pas. Mais je pense que, tu connais le côté très nationaliste de M. Legault. Je crois que ça tient du sens que le gouvernement aille de l'avant avec ça, mais après, il faudra voir les résultats. Mais au moins qu'on soit capable de faire des transactions directement sur le site, je pense que ça pourrait aider.
Ben, j'ai hâte de voir combien ça va coûter ces nouvelles fonctionnalités qui vont nous être annoncées aujourd'hui. Je suis pas mal sûre qu'on va en reparler demain, Olivier. Alors, je te souhaite une excellente journée et à demain.
À demain, Yasmine. Plaisir. Bye-bye.